Good Morning Business, le débrief de la matinale.
Et nous sommes au complet pour notre débrief de la matinale avec Arnaud Aimé, associé chez Sia Partner. Bonjour Hervé Goulet-Pierre qui était déjà avec nous, conseiller économique du cabinet Accuracy. Et André Lozruc-Pietri, bonjour, président de JEDI. Une grande journée réindustrialisation aujourd'hui à l'antenne notamment de BFM Business. L'inauguration de la première usine de batteries électriques sur le sol français, ça se passe à Billy, Berclos, à côté de Lens, là où nous attend Justine Vassogne qui nous détaille ce projet, Justine, gigantesque.
Oui, gigantesque, Laure. On parle d'un site de 34 hectares, 180 000 mètres carrés d'atelier pour à terme 2000 employés. Aujourd'hui, on va inaugurer le premier bloc de cette Gigafactory, juste derrière moi. Gigafactory qui comptera 3 blocs au total. Il a fallu 18 mois pour faire sortir de terre ce premier bloc. Les machines pour produire les batteries, elles sont arrivées en début d'année. Elles viennent toutes d'Asie parce qu'on n'est pas encore capable en Europe aujourd'hui de fabriquer des machines pour fabriquer des batteries lithium-ion. Des batteries, on n'en verra pas vraiment aujourd'hui. La production en grande série, elle ne va débuter qu'à la fin de l'année. Ces batteries, elles seront ensuite vendues exclusivement à deux des actionnaires d'ACC, à savoir Stellantis et Mercedes. Donc l'inauguration de cette Gigafactory, c'est un symbole très fort sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. La France et l'Allemagne ont investi ensemble plus d'un milliard d'euros sur ce projet. On attend d'ailleurs dans quelques minutes maintenant une très importante délégation française avec Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, Roland Lescure. Le ministre des Transports allemand sera également présent, plus qu'une usine, vous l'avez sans doute compris. Billy Berclos, c'est l'illustration, veut-on croire, d'un sursaut européen, d'un sursaut français pour essayer de reconquérir une souveraineté industrielle.
Merci beaucoup Justine. Alors toutes ces méga factories qui se préparent à démarrer leur production, Arnaud Aimé, est-ce que le compte y est? Est-ce qu'effectivement ça va nous permettre d'être un peu plus autonome sur le plan de la batterie, même si beaucoup de composants viennent encore de Chine? Et puis est-ce que du coup ce sont des bons investissements? Jean-Marc Daigne disait mais c'est une folie, c'est sans doute des erreurs, il faudrait mieux importer et récolter les dividendes, ou investir en Chine et récolter les dividendes de l'investissement chinois.
Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. D'abord, c'est la toute première étape, c'est-à-dire que tout ça, ça résulte de l'initiative qui avait été marketée politiquement comme Airbus des batteries en 2018. Ouais. Au final, ils sont allés quand même assez vite, parce que la co-entreprise ACC, avec Mercedes, Stellantis et Total Energy, ça date de 2020. Là, ils arrivent à sortir de terre leur première usine. Alors, c'est juste une tranche, et cette tranche, qui est presque un milliard d'euros d'investissement, ouais, ça permettra d'équiper 250 000 véhicules électriques par an. Donc c'est pas mal, mais on est très loin pour l'instant de l'objectif qui avait été fixé par le président Macron, qui parlait de 2 millions de véhicules à horizon 2030. Donc il en faudra beaucoup plus que ça.
Ce qui dit, elles sont en cours de fabrication les autres, parce que là c'est
exactement
la première tranche. Il y a les concurrents aussi qui vont faire la même chose.
Tout à fait. Alors déjà il y aura d'autres tranches sur ce site d'ACC, et puis il y a notamment l'autre constructeur français Renault qui a deux projets en parallèle. Un avec Envision, qui est l'ancienne entité batterie de Nissan. C'est pour ça aussi qu'ils ne sont pas mis avec ACC, c'est qu'ils avaient intérêt à faire vivre l'alliance avec Nissan. Et puis un autre projet avec une start-up qui s'appelle Vercors. Donc il y a deux autres sites de production de batteries. Cela dit, il y a encore beaucoup à faire parce qu'en fait, il faut énormément d'argent.
La question, c'est de savoir si on va y arriver, si au final, malgré nos milliards d'investissements, on ne va pas rester un nain vis-à-vis des Chinois. André Lozruc-Pietri, vous, comment vous regardez cette journée? Vous dites c'est historique, c'est une bonne nouvelle, prenons ce qu'il y a de bon à prendre, ou regardons un peu, finalement, on reste des nains?
Déjà, il y a deux choses. On comprend qu'en fait, il faut être résilient sur toutes les chaînes de valeur industrielle. C'est-à-dire, c'est très bien de construire des voitures, et encore, en ce moment, on a des petits enjeux avec l'émergence très très rapide des voitures chinoises. Mais si on n'est pas bon sur ce qui représente aujourd'hui entre un quart et un tiers du poids et en partie de la valeur des voitures, ça va être compliqué. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, et vraiment la plus importante pour moi, c'est qu'enfin, on parle de vitesse. Monsieur le disait, ça a été quand même assez rapide. Aujourd'hui, la clé n'est plus forcément que les milliards qu'on investit, c'est évidemment important, mais c'est le fait d'aller plus vite que les autres. Alors après, effectivement, si on regarde tout le panorama, il y a deux choses sur lesquelles je m'interroge. Un, est-ce qu'on va pouvoir faire les prochaines usines de batteries sans que forcément ça soit l'objet d'attention, où il faut 3-4 ministres? En gros, est-ce qu'on va pouvoir démultiplier ça Est-ce qu'on va pouvoir
comme un non-événement, en fait.
Comme un non-événement. S'il faut que toutes les planètes soient alignées, que toutes les administrations travaillent de manière concentrée sur un projet, le risque, c'est qu'on ne voit pas le reste du spectre. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on vise le coup d'après? Est-ce qu'aujourd'hui, on réfléchit à ce que dans 5 ans, 10 ans, c'est très probablement pas la technologie d'aujourd'hui qu'on va utiliser. Ce sera probablement pas du lithium-ion, ce sera peut-être du lithium phosphate de fer, ce sera peut-être des batteries sodium, ce sera peut-être ce qu'on appelle des batteries au soufre, voire à l'air. Ouais. Donc en fait, il faut très très vite anticiper le coup d'après pour ne pas créer des espèces d'usines qui vont durer 5-6 ans et où on va être très rapidement dépassé.
Alors c'est un peu le cas parce qu'on reçoit, nous, des start-up avec des batteries notamment qu'on peut découper, c'est des vrai. Batteries solides, etc. Enfin, il y a plein de nouvelles technologies qui sont en même temps, effectivement, testées. Alors,
l'avantage de l'automobile, c'est que l'aspect sécurité joue énormément. Ah, oui. On sait bien aujourd'hui que dans ce qui a été le problème des batteries pendant 10 ans, c'est son inflammabilité, le risque au choc, etc. Donc c'est pas une industrie où on a des innovations peut-être aussi rapidement que sur les produits de grande consommation ou sur l'IA où on peut tester des choses qui sont prêtes qu'à 80%. Là, il faut que ça soit parfait. Donc, il y a quand même un certain temps devant nous.
Hervé.
Alors moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est le retour de la politique industrielle. Ouais. Il faut bien se rendre compte qu'il y a encore quelques petites décennies, marché et concurrence, voilà, vous créez le cadre où il y avait plus de marché, plus de concurrence, et vous aviez forcément une économie performante. Là, on revient sur la politique industrielle. Je dis, on revient parce que, en fait, si on prend un peu de recul historique, alors, on a envie de dire qu'il y avait la production, quoi. Les pères de l'économie, c'est Adam Smith et Ricardo, donc c'est l'organisation de la production, c'est les échanges, mais on a oublié qu'aux États-Unis, après leur indépendance, une des obsessions, c'était tout de même leur autonomie et donc la politique industrielle qu'il fallait mettre en place. Donc, il y a une espèce de cycle en matière de régulation de l'économie. Et donc là, on revient avec des préoccupations de politique industrielle. Mais en fait, le sujet s'est complexifié. Parce que là, on parle des batteries. Mais pour qu'il y ait les batteries, il faut s'intéresser à ce qu'il y a en amont.
Les matières
donc, il y a les questions
notamment.
Des terres rares, tout ça. Il faut s'intéresser à ce qu'il y a en aval. Donc aujourd'hui, on parle d'automobile. Ça sera peut-être utilisé par d'autres secteurs. Et puis, on voit bien qu'à côté, il y a quand même des tas de points très importants. Il y a le financement. Comment on finance tout ça? Si on dit qu'en Europe, il faut 200 milliards d'euros par an pour la transition énergétique et puis la transition électronique. Comment on finance? Faut la formation. On est quand même à un moment où on a des taux de chômage qui sont très bas, des marchés de l'emploi tendus. Donc bref, on focalise sur un point, les batteries, mais il y a tout l'écosystème économique à mettre en place. Est-ce qu'on est au point partout? Je sais pas.
Ça, c'est le grand débat, hein, Arnaud Aimé, effectivement.
Alors, on n'est pas au point partout, ça c'est
non, mais ce retour de la politique industrielle, de la politique publique, du plan calcul, dirait Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'il ne fallait pas laisser effectivement faire les acteurs, la concurrence? Est-ce qu'on est sûr que
c'est 200 milliards? Il faut se réindustrialiser, ouais. Absolument.
Mais les autres pays ne pratiquent pas la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire que les industriels chinois bénéficient du soutien des pouvoirs publics, notamment pour l'approvisionnement en matières premières, par des investissements publics chinois directement dans les sites de production, dans les mines. Aux États-Unis, il y a l'IRA, dont vous avez déjà beaucoup parlé, qui est du soutien à la production locale. Donc on peut dire que l'Europe, en fait, elle est seulement en réaction.
On ne fait pas encore assez pour protéger notre industrie ou notre vision industrielle.
Je pense qu'on commence à faire assez. Oui. Alors, avec le soutien de l'Europe, parce que ce dont parlait Hervé, la politique industrielle s'est autorisée depuis assez peu, oui, vers ce qu'on appelle les PIEC, en Europe, pour qu'il y ait c'est une refonte un peu des aides publiques, et puis un dispositif qui permet à certains pays européens d'avancer avant les autres. Donc ça peut être à plusieurs vitesses, ça c'est assez nouveau. Par contre, tout ça nécessite beaucoup de milliards d'euros. La batterie elle-même, le composant batterie, c'est 40%, jusqu'à 40% de la valeur ajoutée du véhicule. Donc là, on est sur un aspect critique.
André ?
Oui, ce qu'il vient de dire sur la politique industrielle est tout à fait exact. Je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on revienne pas effectivement au plan calcul, parce qu'en fait le mot complexité le plus important dans tout ce qui a été dit, c'est que c'est tellement complexe aujourd'hui qu'on se rend compte que les bonnes politiques industrielles, c'est celles qui vont donner un cap. Et donc en fait la vraie question, c'est quelle est la qualité stratégique au niveau gouvernemental. Ça ne sera pas en fonction de est-ce qu'on va choisir tel ou tel acteur. C'est est-ce qu'on a compris la complexité des différents éléments, formation, technologie, industrie.
La réponse est non.
La réponse est oui ou non.
Je crois que très clairement, il va falloir une remontée en gamme de la compétence technologique et stratégique de nos décideurs publics. C'est très clair. C'est-à-dire que s'ils sont dans le micromanagement, c'est-à-dire s'ils veulent être présents à toutes les inaugurations et calculer chaque point, eh bien, on va toujours être en retard. C'est comme dans une organisation, on ne peut plus faire du micromanagement. Il faut donner une vraie vision. Si, je pense qu'ils commencent à développer une vraie vision, mais il faut avoir une vision à 5, 10, 15 ans pour ne pas être en défensif, ce qui a été dit, mais en offensif. C'est vraiment ça le grand enjeu.
Est-ce que ce n'est pas toujours la même rengaine ? Il y a eu le plan calcul, il y a, je sais pas, 30 ans, on voit, ou 40, même, je ne sais même plus. Ouais. Ça n'a pas été un grand succès ?
Ça c'est très Jean-Marc Daniel, mais bon, ça a amené quand même à quelques succès de
le Minitel.
Oui, enfin il y a quelques industriels français, quelques géants sur les services numériques. Je pense que on est déjà au point où on va être plutôt sur la défensive. Je pense que l'enjeu avec les batteries n'est pas d'être un géant mondial et d'exporter sur tous les autres marchés. Il s'agit déjà d'approvisionner le marché européen à un moment où le tsunami des importations chinoises est plus proche que jamais.
Oui, enfin.
Hervé.
Oui, moi j'ai envie de dire tout de même qu'il ne faut pas confondre politique industrielle et protectionnisme. C'est-à-dire, la politique industrielle est la marque d'un volontarisme. On veut avoir une économie plus efficace. On veut participer aux changements en cours. Si on essaie de faire ça tout seul dans son coin, vraisemblablement, en fait, en termes d'efficacité, voire même en termes de protection, ça ne sera pas très bon. Donc en fait, on a un monde aujourd'hui où chacun a un peu peur, chacun a envie de revenir sur ses bases, mais il faut trouver le juste milieu. Et si on va trop loin dans une logique protectionniste, un peu comme l'IRA américain, première formule, ça risque de ne pas marcher.
Pendant cela, il y a un secteur qui n'a pas de plan pour l'aider, c'est l'immobilier. On l'attend le 5 juin prochain avec le Conseil de la refondation sur le logement. On a un chiffre de l'INSEE, on sait que l'immobilier est en train de baisser clairement, plus forte baisse depuis juin 2015 sur un an.
Ouais. On est en train de découvrir avec vous les chiffres. Les prix d'immobilier ancien ont reculé de 0,2% au premier trimestre. Bon, c'est la première baisse enregistrée depuis juin 2015. Mais c'est une baisse relativement modérée, 0,2%.
Donc sur
et
les
sur
prix,
un an, on reste quand même à une hausse de 2,7%.
Sur les prix, ça tient encore. Par contre, on voit qu'il y a des agences qui ferment en masse, des promoteurs qui sont en grande difficulté. On a compilé pas mal de chiffres. C'est Thomas Asportas qui vous explique ça.
Pour la première fois depuis le début de la crise immobilière, le crash de l'activité se traduit en faillite d'entreprise. Du côté de l'offre, par exemple, d'après les chiffres du cabinet Altares, les faillites chez les promoteurs immobiliers ont bondi de 54% et de 56% chez les constructeurs de maisons individuelles. Entre janvier et fin avril, comparé à la même période en 2022, 40 promoteurs et 280 constructeurs ont mis la clé sous la porte. C'est 1 à 2% de ces professions qui se sont volatilisées en 4 mois. Ces professionnels payent un marché qui tourne au ralenti, puisqu'au premier trimestre, deux fois moins de nouveaux logements qu'en temps normal sont arrivés sur le marché et un programme immobilier sur cinq a été abandonné. Et du côté de la demande, c'est encore pire puisque les faillites d'agences immobilières sont en hausse de 84% et celles des courtiers de 77%. 250 agences ont tiré le rideau depuis le début de l'année et là aussi, ce sont des professionnels qui payent la très très mauvaise passe du secteur, puisqu'avec la hausse des taux d'intérêt et des prix d'immobilier qui baissent mais qui reste encore très élevé, c'est tout simplement un ménage sur deux qui se désiste, qui renonce à son projet immobilier, soit parce que les taux sont trop élevés et le ménage n'obtient pas son crédit, soit parce que la facture dérape et dépasse le budget.
Merci Thomas. On a l'impression d'être un peu dans un corner sur ce marché immobilier parce qu'on le disait à l'instant, baisse très très modérée des prix à moins 0,2% au premier trimestre, mais il n'y a pas assez d'offres. On a complètement bloqué le marché, du coup on ne voit pas comment ça va se réguler. Normalement la hausse des taux, la baisse du pouvoir d'achat des ménages devrait inciter à une baisse du prix de l'immobilier, ce n'est pas le cas.
On fait tout en France pour que l'immobilier se casse la figure aussi. Donc on y arrive assez bien du coup. Il y a certains phénomènes qui sont mondiaux, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt, mais comme vous disiez, normalement ça amène aussi à une baisse des prix et à une demande qui se met à augmenter à nouveau. Ce qui se passe en France, c'est que il me semble qu'on entretient la pénurie. D'une part, il y a des logiques politiques de blocage des prix, notamment pour la location. Donc ça inspire pas les investisseurs, évidemment.
Du blocage du foncier.
Il y a le blocage du foncier et le zéro artificialisation d'immigration nette. J'y suis arrivé, qui limite les possibilités et puis aussi le pouvoir des maires qui n'ont pas forcément intérêt à l'implantation de logements nouveaux. Et puis enfin, il y a des nouvelles réglementations qui s'imposent au secteur du bâtiment, soit pour un moindre impact environnemental ou davantage d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Tout ça, ça joue sur le marché.
Hervé, c'est un peu comme ce que disait André tout à l'heure sur les gigafactories, la politique industrielle. On n'arrive pas à avoir une vision macro globale d'une politique du logement globale pour la France ?
Alors, il y a le conjoncturel et puis il y a le structurel. Le conjoncturel, je crois qu'on comprend très bien. Le pouvoir d'achat baisse, les ménages n'ont pas une grande confiance, les prix sont élevés, les taux d'intérêt montent. Donc, normalement, que le marché connaisse un retournement dans ce contexte-là, c'est bien normal, je pense.
Mais ça devrait même être violent. Sur les prix, ça devrait être violent.
Oui, mais alors sur les prix, là, pénurie. On bascule dans le structurel. En fait, on parle d'un marché de l'immobilier, mais on ne peut pas parler de marché de l'immobilier parce qu'il y a une demande qui est importante et il y a une offre qui est contrainte. Donc, en fait, ça crée des prix extrêmement élevés, mais je pense que les conditions d'un bon fonctionnement de marché ne sont pas remplies.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Alors, ça voudrait dire que là, on pourrait avoir de la politique, une fois encore, c'est-à-dire qu'une intervention des pouvoirs publics, mais c'est très très compliqué. Tout ménage qui entre dans cette logique, j'emprunte, se dit le prix va monter, je ferai une plus-value, j'achèterai mieux, plus grand. Et donc, en fait, politiquement, se dire je mets en place des mécanismes de correction d'un marché qui ne fonctionne pas, je pense que ce n'est pas acceptable collectivement. Donc en fait, on reste avec un déséquilibre et je crains que le déséquilibre dure longtemps, sauf s'il y a trop de ménages qui sont sortis du marché, et ça commence à être le cas, et que politiquement, ça pose une vraie question.
André ?
Oui, non, je crois qu'on est au cœur de vraiment de ce que doit être la politique au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des secteurs qui sont, il y a une osmose entre les différents sujets, les sujets macro, les sujets fiscaux, les sujets aussi de transition écologique. Enfin, quand vous disiez zéro artificialisation nette, qui est quelque chose qui, personnellement, je soutiens, eh bien, ça a un impact qu'on a du mal à anticiper. Donc, peut-être qu'il faut à la fois des politiques qui ont cette compréhension transversale et regarder comment toutes nos politiques publiques sont faites. Et encore plus au niveau européen. C'est vraiment des silos qui ont un peu de mal, à part en Conseil des ministres, à se parler entre eux. Probablement, la seule solution, c'est d'avoir une vision assez forte d'où on veut aller, en comptant sur le fait que les acteurs vont automatiquement s'aligner vers cette vision et qu'il y aura une vertu un petit peu autoréalisatrice. Mais si on essaye de faire du ponctuel, on va dépenser beaucoup d'argent et on va frustrer, je pense, une grande partie de la population.
En 10 secondes, Arnaud.
Sur l'aspect fiscal dont vous parliez, le fait qu'il y ait ce qu'on appelle vulgairement des frais de notaire, ça contribue à un maintien des prix à un niveau élevé. Les gens ne veulent pas vendre plus cher que ce qu'ils ont acquis, plus les frais de notaire.
Ça limite le nombre de transactions.
Voilà.